Un, deux, test, ça va? Oui, vous m'entendez bien? Alors, bonjour. Comment ça va pour vous autres ce matin? Ça, c'est la question classique. Hein? Comment ça va? Ça va? Ça va pas? Ça va mieux? Mais c'est ça, la vie. Hein? C'est ça, la vie. Ce qui nous aide dans notre relation avec le Seigneur, c'est ça qui fait qu'on est capable de plus de facilité à passer à travers les moments difficiles. Mais pour vous, quelle est votre relation ce matin avec le Seigneur? Et pour les disciples, la relation avec le Seigneur n'était pas très, très bonne. Il était avec lui, il était à l'école. Il était vraiment à l'école. Mais dans beaucoup de situations, il voyait encore flou. Au sujet de Jésus en particulier, puis son ministère. Et c'est ce qui a amené le Seigneur à faire un miracle particulier en leur présence pour leur faire réaliser que leur vision n'était pas bonne. Et c'est le thème de mon message ce matin. Pourquoi un miracle en deux étapes? Une première question que l'on doit se poser, c'est pourquoi Jésus faisait des miracles? Pour démontrer qu'il était le Messie. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, c'était pour démontrer qu'il était le Messie. Combien y a-t-il fait de miracles? Vous n'avez pas compté ça? Non? Vous n'avez pas compté? Moi, je n'ai pas essayé de les compter parce que c'est écrit là. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. On ne peut pas les compter. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi Jésus faisait des miracles? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Vous vous souvenez sûrement d'avoir déjà lu que Jésus guérit un aveugle en deux étapes. Même hier, je parlais avant-hier, je parlais avec quelqu'un, j'ai donné un traité sur quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur encore. Il chemine. Et il m'a demandé, il dit, qu'est-ce que tu fais de bon en fin de semaine? Bien, je dis, dimanche, c'est moi qui apporte l'enseignement à Cap-de-la-Madeleine. Ah oui, c'est quoi ton sujet? Je dis ça, ah oui, il dit, j'ai déjà lu ça. Bien, c'est déjà un bon commencement. Alors, il poursuit ses recherches. Alors, il avait lu, lui, que l'aveugle avait été guéri en deux étapes. Et ce passage, on le retrouve dans Marc, au chapitre 8, verset 22, si vous voulez y tourner, pour ceux qui ont une Bible sur eux autres, ou si vous êtes avec... On va voir plusieurs versets ce matin. Alors, notre passage clé, c'est celui-ci. Marc 8, 22 à 25. Il se rendit à Bethsaïda, et on emmena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors de la ville. Puis il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il y a deux petits points intéressants, hein, ce passage-ci. L'impression, moi, ce gars-là a déjà vu. Parce qu'un aveugle né, s'il commence à voir, il n'aperçoit pas des hommes. Il ne peut pas reconnaître des hommes et des arbres. Mais lui, il dit, j'aperçois des hommes, c'est comme des arbres. Comment ça qu'il est capable de percevoir ça? En tout cas, on n'a pas de réponse, hein? Mais peut-être qu'il a déjà vu. Un autre petit point important qu'on retrouve, c'est hors de la ville, hors du village. Généralement, Jésus faisait tous ses miracles en grande foule, devant beaucoup de monde, mais là, à part. Il veut enseigner ses disciples à part. Pour bien comprendre ce miracle en deux étapes, il faut appliquer vraiment la bonne méthode d'interprétation. C'est ce que nos amis en haut sont probablement en train d'étudier la leçon 2 du cours EBE. L'observation, l'interprétation, l'application. Il faut retenir ça comme il faut. L'observation, l'interprétation, l'application. On va regarder en premier temps l'observation. Si on observe notre texte, on peut se poser des questions. Qui parle? À qui parle-t-il? Quels sont les personnages? À quel endroit la situation se passe-t-elle? Y a-t-il quelque chose de particulier qui se passe? Puis quel est le but du message? On va répondre vitement à ces questions-là. Qui est-ce qui parle? C'est Jésus, OK? À qui est-ce qu'il parle? À l'aveugle, puis les disciples qui sont présents. OK? Les personnages, c'est les disciples et l'aveugle. Et à quel endroit ça se passe? Hors du village. Tous des petits détails qu'il ne faut pas oublier. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce passage? Un miracle en deux étapes. Normalement, Jésus, quand il guérit complète. Ici, c'est un miracle en deux étapes. Le but du message, bien ça, on va le voir à travers le message. Le deuxième point, c'est l'interprétation. Et pour avoir une bonne interprétation, bien, il faut tenir compte de trois choses. Il faut tenir compte du contexte, ce qui vient avant le passage, ce qui vient après le passage. Les passages parallèles, mais ici, dans Marc, on n'a pas de passage parallèle. Ce texte-là, il est seulement dans Marc. Quand il est, des fois, il est dans les trois ou dans les quatre évangiles, on peut aller lire les passages parallèles. Mais ici, on ne peut pas. Et la culture. Alors, vous avez le contexte qui vient avant, après, passage parallèle, quand c'est possible, et la culture. Vous savez qu'à l'époque, la vue était souvent utilisée pour démontrer la compréhension ou l'incompréhension au sujet d'une situation. Mais c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. On va dire, on va raconter quelque chose, et, ah, tu vois juste, hein? Ou tu as tout compris. D'autres fois, on va dire, non, tu vois pas clair, pas en tout, non, tu vois flou. Et c'est une métaphore, évidemment, qui consiste à modifier un mot pour apporter une signification ou une comparaison sous-entendue. Mais ce qu'il faut bien comprendre au départ, c'est que lorsque Jésus fait quelque chose, il y a toujours un but. Et le but ici, c'est qu'il veut enseigner ses disciples. Et c'est pour ça qu'il les a emmenés à part, hors de la ville. Comme je disais tantôt, au lieu de faire ça en public, il les emmène hors de la ville parce qu'il veut les enseigner, eux. Vous savez, Jésus veut faire comprendre aux disciples qu'ils n'ont pas tout compris, qu'ils voient encore flou. Il leur manque quelque chose pour voir vraiment clair. On peut faire une petite application ici, nous autres aussi. Hein. Des fois, ça nous arrive de ne pas voir tout à fait comme il faut. Il nous arrive à une situation, il nous en arrive tous des situations, puis on se pose des questions, pourquoi? Pourquoi? Et parfois, le Seigneur nous enseigne par les difficultés. Parfois, c'est par sa parole. Parfois, c'est par d'autres personnes ou par d'autres moyens. Mais le Seigneur prend toujours un temps, il nous amène à part pour nous enseigner. Mais comme déjà mentionné dans ce miracle a été retenu seulement dans Marc. Et il y a plusieurs interprétations. Moi, j'en ai sorti 9. On ne les passera pas toutes. Mais j'ai retenu la 7e. La 7e qui dit que cet événement symbolise la marche des disciples vers la lumière. Ils voient flou, puis le Seigneur veut les emmener à voir clair. Nous autres aussi, dans notre vie chrétienne, depuis le début, quand on était des enfants de la foi, il y a beaucoup de choses qu'on voit flou, on ne voit pas clair. Ben, avec les années, on apprend, on dit « Ah, c'est ça que ça veut dire. » Ah, là, on commence à voir plus clair. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est la vie. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Une révélation en deux étapes pour les disciples. Vous savez qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont de la difficulté avec ce passage parce qu'ils ne tiennent pas compte du contexte particulier de le. Tu sais, il y en a qui vont lire le texte puis ils veulent comprendre que le texte. Mais ce qui vient avant, souvent, explique le texte et ce qui vient après aussi. Et je pense que Jean-Paul Bernier qui disait « Un texte hors contexte devient un prétexte pour mal interpréter la Bible. » Alors, la guérison en deux étapes n'est pas le signe d'une limitation de Jésus dans le domaine de guérison physique. C'est pas parce que Jésus était limité qu'il l'a fait en deux étapes. Elle n'est pas non plus liée à l'incrédulité de l'aveugle ou à sa progression de la foi. C'est pas parce qu'il a cru un peu puis il va croire un peu plus tard. Jésus guérit volontairement en deux étapes car il veut instruire ses disciples. Ce sont eux qui doivent être enseignés en premier. Alors, ce miracle décrit la compréhension incomplète des disciples. Leur vision est vraiment embrouillée sur cette situation. Et pour bien comprendre le texte, bien, on va regarder avant et après, et on va commencer à regarder qu'est-ce qui s'est passé avant. Le contexte qui précède. Et on va ouvrir nos Bibles dans Marc au chapitre 6. Marc au chapitre 6, on va lire juste seulement quelques versets. Marc au chapitre 6, c'est le verset 41. C'est la première multiplication des pains. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui reste des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Deuxième multiplication, chapitre 8, verset 5. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, il fit aussi distribuer. Ils mangèrent, furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Il était environ 4000 hommes. 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. C'est une chose intéressante. Hein? Tantôt, il y avait 12 corbeilles, puis ça, il y en a 7. On ne trouvera pas ça ce matin, là, mais c'est intéressant de regarder pourquoi. Troisième point, c'est que suite à ces deux miracles, Jésus poursuit à partir du verset 10. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée d'Amalnuta. Verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Il y avait juste un pain dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Ils ont juste un petit pain. Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous à ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers de morceaux avez-vous apporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, vous ne comprenez pas encore. Il y en a eu des pains, des milliers de pains. Puis là, parce que vous n'avez juste un, vous oubliez qui je suis. Vous n'êtes pas capable de réaliser, si j'ai réussi à nourrir des milliers d'hommes, je ne suis pas capable de vous mourir, vous êtes juste une douzaine. Juste à multiplier 12 pains, puis on est correct. Et il y avait vraiment, c'est clair, hein? Vous ne comprenez pas encore. Je viens de faire 2 grosses multiplications. Puis là, on a juste un petit groupe, puis pensez qu'on va manquer. C'est après cela qu'on retrouve notre passage qu'on a lu tantôt, les versets 22 à 25. On a remarqué que le texte nous a mentionné qu'on était hors de la ville parce que le Seigneur veut enseigner ses disciples à part. Le Seigneur veut les faire réfléchir. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qui était Jésus pour eux? Qui était Jésus pour eux? Jésus guérit en deux étapes car sa révélation aux hommes comporte deux aspects. La première concerne sa puissance, sa capacité de guérir de toutes les maladies, de casser les esprits impurs, etc. Ça, les disciples ne l'avaient pas tout à fait bien compris. On vient d'avoir la preuve. Lorsqu'il apaise les vents et la mer, hein, ils disent à Marc 4, ils disent, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » C'est qui ça? Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas encore qui il est. Là, il vient de faire la multiplication des pains, puis ils ne comprennent pas encore. Alors, ils ne réalisent pas tout à fait sa puissance. Le deuxième point, c'est en ce qui concerne sa passion. Sa passion qui est sur le point d'annoncer bientôt. Ça, ils ne l'avaient vraiment pas compris. Pierre pouvait confesser son admiration pour Jésus en disant, « Tu es le Christ. » Mais cela, ça ne voulait rien dire parce qu'il n'avait pas vraiment compris. Jésus voulait vraiment enseigner ses disciples. Et la question, c'est qui était Jésus pour eux? Voyez-vous, par ce miracle en deux étapes, on peut comprendre comment Jésus ouvre les yeux spirituels des disciples. Les disciples reconnaissaient en Jésus un Messie puissant, parce qu'il fait des miracles. Ils ont même dit, il fait tout à merveille. Mais il était toujours limité. Mais ils n'avaient vraiment pas compris le Messie souffrant. Et nous avons regardé les passages qui viennent avant notre texte. On a réalisé que vraiment les disciples n'avaient pas compris la puissance du Seigneur Jésus, qui il était vraiment. Maintenant, on va regarder ce qui se passe après pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris. Jésus annonce sa passion. Première annonce de sa mort, au chapitre 8, verset 27. Chapitre 8, verset 27, ça vient juste après le texte. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et leur posant en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors, il commença, c'est la première fois qu'il annonce sa mort. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme sauve beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Tout un choc pour eux autres. Hein? Et regardez la réponse au verset 32, la réaction. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, arrière de moi, cette pensée contradictoire que tu as. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as pas compris, pantoute. Tu n'as pas compris. Tu vois encore flou. Tu es encore aveugle. » Deuxième annonce de sa mort, au chapitre 9, verset 9. Là, ça, c'est Pierre, Jacques et Jean qui est allé sur la montagne, la transfiguration. Puis, en redescendant de la montagne, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Troisième annonce de sa mort, au chapitre 9, verset 11. Les disciples qui lui posèrent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? » Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit dans le du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? » Quatrième annonce de sa mort, au verset 30. Ils partirent de là, traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Regardez bien la réaction, verset 32. « Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. » C'est pour ça que le Seigneur les amène à part pour les enseigner. Ils ne comprenaient pas ces paroles et ils craignaient de l'interroger. Cinquième annonce de sa mort, au chapitre 10, verset 33. Chapitre 10, verset 33. Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et le condamneront à mort, et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Le comble de leur aveuglement est illustré dans les versets qui suivent. Verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons, d'orons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Est-ce qu'ils ont compris que le Seigneur était pour aller à la croix pour mourir pour eux? Pas du tout. Ils sont aveugles encore. Jésus voit bien que Jésus soit le Messie, Pierre l'avait bien dit au verset 29, mais qu'il soit le Messie souffrant, ça, il ne l'a pas compris. Puis il va le comprendre quand? Quand est-ce qu'ils vont le comprendre? Tournez dans Jean au chapitre 21. Jean, chapitre 21. Dans Jean, au chapitre 21, on voit, c'est après la résurrection, les disciples sont là, le Seigneur est parti, il ne sait plus quoi faire. 21:3, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il n'y a plus rien à faire, le Seigneur est parti. Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils n'ont pas plus compris, eux non plus. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Mais le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfin, n'avez-vous rien à manger? » Et ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, au moins ils ont obéi. Hein? Ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est l'apôtre Jean, dit à Pierre, il dit, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu, c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture qui était nue et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de 300, plus de 300 poissons. Il y en avait 200, comment il était éloigné? Tirant le filet plein de poissons. Il me semble qu'il y a une place marquée 133, du coup. Verset 11? Ah oui, c'est ça. Mais juste faire retenir l'affaire. C'est, voyez-vous, Pierre, amené jusque-là, il voyait flou. Il n'avait pas compris tout à fait le ministère de Jésus, puis il n'avait pas compris non plus la passion de Jésus. Il voyait toujours flou. Fait qu'après que le Seigneur est ressuscité, Le Seigneur n'est plus là. Bon, on va retourner en paix, on va faire comme on faisait avant, le Seigneur est parti. Mais là, quand il a entendu, c'est le Seigneur qui est là, là, il a allumé. Il dit, il n'y a pas d'autre que le Seigneur qui est capable de faire qu'on passe une nuit, qu'on ne prenne rien, puis que sur un mot, mettre ça du côté droit, puis c'est plein de poissons, il n'y a pas d'autre que lui qui peut faire une affaire de même. Là, il a saisi, puis là, il est allé à la rencontre du Seigneur. C'était important d'avoir cette rencontre-là avec le Seigneur, cette rencontre. Probablement que là, il a eu une relation vraiment intime avec le Seigneur. C'est à partir de là que le Seigneur commence à lui dire ce qu'il doit faire. Mais c'est là qu'il a commencé, il a vraiment compris. À vous penser, toute la vie qu'ils ont passée avec le Seigneur, ils voyaient toujours flou. C'est juste à la fin que là, ils comprennent vraiment qui était le Seigneur. Et vous allez, quand on lit les Actes des apôtres, on voit Pierre qui est tout enflammé. Là, il a compris comme il faut. Il parle, il ne gêne pas pour parler. Alors, on voit que par ce miracle, le Seigneur voulait les amener à part pour leur faire comprendre par cette illustration-là. Vous voyez le gars, là, il voit flou et vous autres êtes pareils. Mais avec le temps, il a vu plus clair. Alors, avoir lu le contexte avant-après nous a vraiment aidé à comprendre ce texte-là. Maintenant, on arrive à la troisième partie qu'on appelle l'application. Quelle leçon cette guérison en deux étapes peut-elle donner pour nous aujourd'hui? Parce que peu importe quel passage qu'on va étudier, il faut toujours arriver avec une application personnelle à la fin. Qu'est-ce que ça m'apporte pour moi aujourd'hui? L'incrédulité des disciples les a empêchés de croire au Messie souffrant. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Il y en a que Jésus, c'est un ami. D'autres, c'est un compagnon de voyage. D'autres, c'est un exemple à suivre. D'autres, c'est un bienfaiteur. D'autres, un guérisseur. D'autres, c'est un sauveur. Qui est Jésus pour vous? Je vais vous raconter une petite histoire d'une fille. Ça s'est passé en 1989. T'étais au monde. La majorité était là en 1989. C'est une jeune fille qui s'appelait encore comme ça, Kayla. Kayla souhaitait rencontrer l'ambulancier qui lui avait sauvé la vie alors qu'elle n'avait que 2 mois. Ce qui est arrivé, c'est qu'en pleine nuit, le feu a éclaté. Kayla, ses parents, ses grands-parents se trouvaient à l'étage et impossible d'y sortir. À tour de rôle, ils ont dû sauter d'une fenêtre pour éviter les flammes. L'ambulancier a raconté, « Le bébé était dans les bras de sa mère et j'ai constaté qu'il était en arrêt respiratoire. » Parce que sa mère a pris le bébé et a sauté par la fenêtre avec le bébé. Puis quand l'ambulancier l'a vu en bas, la petite était en arrêt respiratoire. Il dit, « Je suis parvenu à réanimer la petite, mais elle a de nouveau fait un arrêt cardiaque et je l'ai réanimée encore. » En 2010, pour souligner le 21e anniversaire de Kayla, une quarantaine d'invités étaient présents. L'ambulancier a été invité. À un certain moment donné, il s'est présenté et il est allé serrer dans ses bras l'enfant qu'il avait sauvé 21 ans plus tôt. Kayla a dit, « C'était un moment intense. Je manque de mots pour le décrire. » Elle a dit, « Grâce à lui, j'ai 21 ans aujourd'hui. » Elle le savait depuis son jeune âge qu'elle avait été sauvée et elle a toujours voulu le rencontrer. Elle a dit, « Je voulais le voir. » Je voulais le voir parce qu'il m'a donné la chance de vivre. Jésus étant mon sauveur, étant votre sauveur, moi aussi j'ai hâte de le voir. Moi aussi j'ai hâte de le voir parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Et vous, c'est la même chose. Si Jésus est pour vous votre sauveur, le Messie souffrant pour vos péchés, pour vos manquements, vos désobéissances, vous voyez clair. Mais si vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous êtes sauvé, vous voyez flou. Vous voyez encore comme les cinq premiers qu'on retrouve ici. John Everett a dit un jour, « Personne n'entre au ciel avant d'avoir été convaincu de mériter l'enfer. » Mais le problème des gens aujourd'hui, ils ne méritent pas l'enfer, donc ils ne peuvent pas aller au ciel. Réalisez-vous que nous sommes un peu comme les disciples, nous autres aussi. Dans le passé, dans plusieurs domaines, on voyait flou. Alors que maintenant, on voit un peu plus clair. Et ce qui va nous amener à voir encore plus clair, c'est l'étude de sa parole. Vous savez que nos yeux ont une particularité importante. Une glande spéciale produit le liquide lacrymal, ayant la fonction non seulement de nettoyer sans cesse et de lubrifier nos yeux, mais aussi de les nourrir en dioxygène. Sans cette action permanente, nous deviendrions vite aveugles. Tout comme nos yeux physiques, nos yeux spirituels ont besoin d'être constamment nettoyés, lubrifiés et nourris. Ce liquide lacrymal est la parole de Dieu. Ne négligeons donc pas notre étude personnelle de sa parole, sinon nous risquons vite la sécheresse spirituelle par rapport à notre vision. Avez-vous remarqué qu'il n'est jamais dit que celui qui a des yeux voit? Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 17. Et c'est après avoir entendu et assimilé la parole de Dieu que nous pouvons voir spirituellement. Êtes-vous encore là? Il faut comprendre. Après ça, mettre en pratique. Mais si vous ne lisez pas, comment est-ce que vous allez pouvoir grandir si vous ne vous nourrissez pas spirituellement? Qu'en est-il de votre connaissance de Dieu, vous autres? Votre intimité avec Dieu? Si je vous posais la question ce matin, êtes-vous satisfait de votre relation avec Dieu? Personne ne répond. Savez-vous pourquoi personne ne répond? C'est parce que personne n'est satisfait. On n'est jamais satisfait de notre relation avec Dieu. Satisfait complètement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de progresser. Vous savez ce que Jésus a dit dans Jean 17? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez comme sauveur? Ou comme maître de votre vie, celui qui dirige votre vie. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est que le mot « connaître » en grec, c'est « gnosko ». Et « gnosko » veut dire « connaissance intime ». Intime spirituellement. Le Seigneur veut qu'on ait une connaissance intime de lui, qui progresse, qui fait que quand je regarde en arrière, je peux dire aujourd'hui, oui, je le connais plus qu'avant. J'ai une meilleure relation avec le Seigneur, ce qui fait que quand il arrive des difficultés, j'ai plus de facilité à passer à travers, parce que je le connais mieux. Je sais qu'il va m'en sortir. Et la connaissance intime qu'on retrouve ici, je n'aime pas trop employer cela, mais c'est dans la Bible. C'est la relation physique. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 25, en parlant de Joseph et Marie avant la naissance de Jésus, c'est écrit, « Mais elle ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. » Il ne la connut point. Puis le mot « connaître », c'est « gnosko ». La relation physique, mais Dieu veut qu'on ait une relation spirituelle avec lui, intime avec lui. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est la base. Nous avons besoin d'apprendre à mieux le connaître. La plupart de nos problèmes, nos relations avec les autres viennent du manque de connaissance de Dieu, du manque d'intimité avec Dieu. Le problème des divisions, c'est un manque de connaissance de Dieu, d'intimité avec Dieu. Et si vous voulez voir comment ça se passe, vous avez juste à venir à la réunion générale. C'est là, dans toutes les réunions générales, on voit toutes la même affaire. J'en ai fait des réunions générales de ma vie, mais dans bien des églises. C'est toujours le même programme. La chair prend le dessus. Pourquoi? À cause de notre relation avec Dieu. Quand on t'attaque, ouf! C'est comme je disais nous autres quand on était jeune, hein? Si tu me piles sa grosse orteille, moi je fais une réaction. Mais plus ta relation avec Dieu va être bonne, ton intimité avec Dieu va être bonne, quand quelqu'un va te piler sa grosse orteille, il va dire, tu as quelque chose autour de ton pied. On va réagir différemment. Ça fait mal pareil. Mais on réagit différemment. Que faut-il faire pour améliorer notre connaissance de Dieu? Bien, c'est passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui dans la prière, dans la parole. En mars dernier, on a terminé. On avait un petit groupe. Plusieurs de vous le savaient. On avait un petit groupe, on se réunissait aux deux semaines le dimanche soir. On a appelé ça « La vie chrétienne, un combat ». La vie chrétienne, un combat. À chaque soirée, nous réalisions que nous avions un grand besoin d'améliorer notre relation avec Dieu. Tu verrais ceux qui étaient là? Ceux qui étaient là, ils disaient, on sortait de là. À un moment donné, arrivait à la fin, puis le monde disait, « Oh, faut pas rester trop négatif, là. Hein? » Faut voir ça positif. Ça veut dire que si on reconnaît que notre relation n'est pas bonne, c'est un point de départ maintenant. Ma responsabilité, c'est de travailler à l'améliorer, ma relation. Et j'ai été frappé. Ceux qui étaient là, ils se souviennent. C'est quelqu'un qui n'est plus ici maintenant, il est déménagé à l'extérieur. Il est parti, selon ce qu'on avait parlé ensemble. Lui, il est parti un samedi matin. Il a pris sa Bible, puis il s'en allait en forêt, puis il a passé une heure en prière, puis lire sa Bible. Juste une heure. Il est revenu, il dit, il faudrait que je fasse ça toutes les semaines. Passer du temps seul avec Dieu. En dehors, avec Dieu. Nous avons besoin définitivement d'améliorer notre relation avec Dieu. Comme les apôtres avaient besoin, ce besoin-là, ça a pris 3 ans et demi avant qu'ils comprennent, on est aussi lent qu'eux autres à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a besoin, chaque jour, de prendre un temps spécial avec le Seigneur, en prière, en lecture, en étude, pour en arriver à mieux le connaître. Prions. Seigneur, aide-nous à passer plus de temps avec toi, un temps de qualité, afin de mieux te connaître, t'aimer, te servir. Seigneur Jésus, tu connais chacun de nos cœurs. Tu sais les progrès qu'on a faits depuis le début. Tu sais qu'on manque de relations intimes avec toi. On n'est pas si intime que ça. On ne te connaît pas si bien qu'on devait te connaître. On te prie, dans ta grâce, Seigneur, de répondre à nos besoins, de nous rappeler qu'on doit apprendre à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. On implore ta grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen.